Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, les maladies infectieuses tuent près de 17 millions de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement. Elles sont transmises par des bactéries, des virus, des parasites. Les trois maladies infectieuses les plus mortelles sont la tuberculose, le sida et le paludisme. Et d'autres défraient l'actualité, comme à Madagascar. Là, c'est une épidémie de peste qui sévit depuis le mois d'août et a déjà fait plus d'une centaine de morts sur la grande île. Dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh, où il serait près d'un million à vivre pour beaucoup dans des conditions insalubres, eh bien, l'OMS redoute une épidémie de choléra. Et sur place, la plus vaste campagne de vaccination contre le choléra, depuis celle en Haïti en 2016, va être organisée. Alors, comment faire reculer les maladies infectieuses, lutter contre les cas de paludisme, de VIH, de tuberculose ou de maladies diarrhéiques? Pourquoi miser sur la recherche en biologie? Quelle mobilisation dans les pays en développement ces 50 dernières années? Et quels progrès reste-t-il encore à accomplir? Un reportage de Charlie Dupiau à l'occasion des 50 ans de la Fondation Mérieux à Annecy, avec des médecins venus du monde entier, venus partager leurs expériences et leurs combats aussi contre les maladies infectieuses. Bonjour Charlie Dupiau.
Bonjour.
La Fondation Mérieux, c'est une structure familiale en lien avec le laboratoire pharmaceutique BioMérieux. Cette fondation lutte depuis 1967 contre les maladies infectieuses en finançant des laboratoires et des formations dans les pays en développement. Alors l'idée, c'est de renforcer les capacités des systèmes de santé nationaux et la Fondation collabore sur place avec de nombreux médecins. Ce sont de véritables références dans leur domaine.
Oui, comme Jean-William Pape en Haïti. Il a étudié à l'université de Cornell aux États-Unis où il est toujours professeur. Alors il est médecin interniste et infectiologue de formation. Il a monté à Port-au-Prince les centres GESCIO qu'il dirige aujourd'hui. GESCIO, ça veut dire groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes. Alors ces centres sont soutenus par la Fondation Mérieux. Ils sont devenus au cours des trois dernières décennies les centres les plus importants des Amériques sur le traitement du sida et de la tuberculose. Ces centres sont donc dédiés à la recherche sur les maladies qui ont un impact sanitaire majeur dans le pays.
Je suis revenu à Haïti en 1979. Mon premier objectif était de déterminer les causes des diarrhées infantiles chez les enfants. Les maladies diarrhéiques chez les enfants sont celles qui, en Haïti et ailleurs, sont les plus grandes causes de décès. Donc, quand j'ai débuté mon travail, 44% des enfants qui arrivaient pour des raisons de diarrhée, mourait. J'étais extrêmement, extrêmement déprimé. Donc, j'ai arrêté mon étude initiale qui consistait à déterminer les causes de la diarrhée pour davantage me pencher sur comment prévenir des décès. Et là, j'ai vu que, de façon tout à fait expérimentale au Bangladesh, ils essayaient une solution de sérum oral pour les patients qui avaient le choléra. J'ai ramené cette formule chez moi, je l'ai composée moi-même. Très rapidement, les résultats étaient spectaculaires. Donc la mortalité, elle a chuté à moins de 1% grâce au sérum. Et l'autre chose encore, c'est que j'ai introduit les mères qui étaient admises dans les salles avec leurs enfants et qui ont appris également à composer le sérum oral, à la maison également, avec du sel et du sucre de table. En 2 ans, avec le ministère de la Santé, on a créé un programme national de lutte contre la diarrhée. Alors, je dois vous dire que ça, je l'ai réalisé à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. C'est le plus grand centre de formation du pays. Et j'ai pu former en cours de route beaucoup d'internes et de résidents qui ont eux-mêmes vu également les bénéfices du sérum oral. Ce programme a été crédité pour la baisse spectaculaire de la mortalité infantile qui est passée d'environ 200 enfants pour 1000 à 76 pour 1000. C'est encore trop élevé, mais ça a été le fruit de ce programme.
Et puis il y a ce tournant dans la carrière du docteur Jean-William Pape en Haïti. C'est au début des années 80, de nouveaux symptômes apparaissent et avec eux, une nouvelle pathologie qui est découverte.
Alors quand j'étais à l'hôpital de l'Université d'État, j'étais appelé par mes confrères en médecine interne pour me dire qu'il y a des adultes qui sont là avec une diarrhée, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? J'ai cru au départ qu'il s'agissait de tuberculose intestinale, mais il s'est révélé qu'il s'agissait de nos premiers cas de sida. Il se présentait avec le sarcome de Kaposi, cette tumeur qui est souvent au niveau de la peau, mais qui est souvent également au niveau de plusieurs organes, et des infections opportunistes. Donc c'est ainsi que le 2 mai 1982, avec d'autres médecins haïtiens, on a formé le groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi des infections opportunistes, connu sous le nom de GISCIO.
Et à l'époque, le sida n'existait pas ?
Le sida n'existait pas, donc ce groupe a précédé le terme sida, si vous voulez. Nos patients sidéiens sont sous traitement depuis maintenant près de 20 ans. Vous savez, dans mon champ, on va en maladie infectieuse parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose. Et c'est pourquoi le sida était très déprimant, parce que on pouvait pas faire grand-chose avant. Mais avec les antirétroviraux, les gens peuvent vivre une vie tout à fait normale. En fait, chez nous, beaucoup de nos patients travaillent dans le centre et nous aident beaucoup à aider les autres à être adhérents au traitement antirétroviral.
130 000 personnes aujourd'hui vivent avec le VIH en Haïti.
Oui, et actuellement à près de 90 000 personnes sous antirétroviraux. Nous sommes peut-être l'un des rares centres, d'ailleurs on a publié l'un des premiers papiers là-dessus, sur le traitement immédiat après le diagnostic. Les gens nous arrivent, le premier jour de leur arrivée, on les met sous traitement. Ce n'est plus un arrêt de mort, au contraire, vous allez vivre une vie normale si vous prenez vos médicaments, et autant commencer dès aujourd'hui.
Les médicaments sont gratuits ?
Les médicaments sont gratuits, les tests de diagnostic sont gratuits.
Du coup, ça veut dire que près de 40 000 personnes n'ont pas de traitement antirétroviraux ?
Oui, c'est certainement le cas dans beaucoup de pays. Il faut pouvoir d'abord les identifier. Actuellement, en Haïti, il y a 200 centres de dépistage à travers le pays. On peut trouver le traitement partout à travers le pays, il est offert. La prévalence du VIH a chuté considérablement. Le pourcentage de positifs à Port-au-Prince est bien moins élevé que celui à Washington DC. Il est moins de 2%. Comme j'ai dit, il y a des petites poches, particulièrement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et là, c'est dû un peu à la stigmatisation. Ces personnes ont peur de se présenter à un centre de santé, ce qui n'est pas normal. La solution définitive, c'est de trouver un vaccin. Je suis persuadé que dans les 10 prochaines années, il y aura un vaccin efficace contre le sida. Et à ce moment-là, je pourrai m'en aller tranquille.
Oui, grâce surtout au financement du Fonds mondial. Alors Jean-William Pape craint aussi les répercussions d'une loi adoptée en août dernier sur l'homosexualité. Une loi qui interdit le mariage gay, mais aussi, je cite, « toute manifestation publique d'appui à l'homosexualité et de prosélytisme en faveur de tels actes ». Une loi donc que Jean-William Pape n'approuve pas et surtout qui risque, selon lui, d'augmenter la stigmatisation des personnes à risque de VIH. Pour lui, on ne peut pas régler le problème du sida si toutes les personnes ne sont pas diagnostiquer et traiter.
Oui, et puis il y a aussi le rôle de la prévention.
Oui, avec la sensibilisation au port du préservatif, on a pu montrer que les gens qui utilisaient le préservatif de façon régulière avaient 7 fois moins de chances d'avoir le sida. Et puis en Haïti aussi, le taux de maladies sexuellement transmissibles a largement baissé. C'est le cas pour la syphilis congénitale, les ulcères génitaux, etc.
Alors est-ce que la tuberculose a aussi reculé ?
Les chiffres ont baissé, des nouveaux cas chaque année. Depuis 2003, les centres GESCU ont mis en place un test immédiat pour la tuberculose. Si le patient arrive et tous, depuis plus de 2 semaines, on lui donne tout de suite un masque. On procède au prélèvement de crachats et au toucher du thorax. Le laboratoire Rodolphe Mérieux des centres GESCIO réalise aussi de nombreuses cultures de bacilles tuberculeux, 10 000 par an. Et Jean-William Pape s'inquiète surtout maintenant des maladies chroniques qui se développent en Haïti. Hypertension, obésité et puis risque associé de maladies cardiovasculaires qui sont liées à une alimentation qui n'est pas saine.
Et la Fondation Mérieux soutient financièrement des centres comme celui dont on vient de parler, celui qui est géré créée par le docteur Jean-William Pape. Elle est restée depuis sa création, il y a 50 ans, une fondation familiale.
Oui, elle est dirigée aujourd'hui par Alain Mérieux, le fils du fondateur Charles Mérieux. Il nous explique pourquoi la fondation s'est toujours impliquée dans la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en développement.
Les maladies infectieuses, c'est un peu dans notre génétique familiale. Et deuxièmement, les besoins criants étaient dans les pays comme le Mali qui n'avait rien, la Guinée n'avait pas grand-chose non plus.
À Bamako, le premier laboratoire a été ouvert en 2005.
2005. Car on sait que s'il n'y a pas sur place le diagnostic rapide et de qualité, le pays est perdu. Les virus et les bactéries n'ont pas de frontières. On ne peut plus travailler aujourd'hui à l'échelle d'un pays ou même d'un continent.
Et comment s'organise le financement de ces laboratoires ?
Nous finançons le laboratoire, c'est-à-dire nous le créons, nous l'installons, nous formons le personnel, et puis ensuite on le confie au pays, ou à l'université, ou à une organisation comme le GESCIO en Haïti. Mais nous restons très proches pour la formation, je dirais pour les échanges scientifiques. La formation technicien de laboratoire est aussi indispensable que l'équipement.
Avec des fonds de la fondation privée ?
On a un budget qui grandit, on était... Il y a 10 ans, de l'ordre de 5 millions par an, on est à 25 maintenant.
Vous ouvrez des laboratoires au rythme de 1 laboratoire par an, à peu près ?
Oui, à peu près. C'est 1 tous les ans, tous les 18 mois. Voilà, ça dépend un peu de la lourdeur de l'investissement. C'est de l'ordre chaque fois de 1 million à 2 millions d'euros.
Et pourquoi est-ce important, selon vous, de renforcer les compétences en biologie ?
Si vous ne faites pas ça, vous livrez ces pays à tous les risques épidémiques qui sont énormes. Souvent, la médecine est aveugle et on utilise ou des traitements non appropriés ou alors on prend des risques énormes, comme l'Ebola. Pendant 4 mois, on n'a pas été diagnostiqué, qu'il y a eu énormément de morts pour le personnel soignant. Aujourd'hui, avec la démographie galopante, l'urbanisation, le réchauffement climatique, vous avez des causes de risques de maladies infectieuses croissantes à travers le monde. On a l'émergence de nouveaux pathogènes. L'Ebola qui était concentré dans des forêts de République démocratique du Congo et qui est venu se promener en Afrique de l'Ouest avec les ravages qu'il y a, c'est le chikungunya, c'est le zika, c'est la dengue qui sont portés par des moustiques qui apprécient le réchauffement climatique. Mais c'est une alerte permanente. La tuberculose était éradiquée en 1963 et qu'aujourd'hui c'est la première pathologie mondiale. Ça vous rend très humble. Et les camps de réfugiés, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak ou au Liban, posent des problèmes dramatiques. Les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Et il y a une morbidité infantile due à des germes, soit d'infection pulmonaire, soit diarrhée, qui amène chez l'enfant, les nourrissons, des risques mortels.
Pourquoi la surveillance épidémiologique vous paraît aussi importante, alors qu'on pourrait se dire qu'il y a aussi d'autres priorités qui sont... de traitement, tout simplement, des malades.
Vous savez, lorsque l'on peut agir avant, ça n'a pas de prix. Le fait d'avoir des réseaux de surveillance, de connaître l'étiologie d'une pathologie, ça change complètement et le traitement et la réaction. Si on veut que le pays se développe, il faut développer les infrastructures, développer la recherche appliquée et développer une élite scientifique qui elle-même formera une élite de demain. Je pense que le risque, il est totalement présent. Et la bataille ne peut être que planétaire. Et pour être planétaire, il faut que l'on ait des infrastructures locales qui répondent tout de suite aux besoins.
La Fondation Mérieux a construit des laboratoires dans une dizaine de pays.
Dans 13 pays exactement, depuis 2005. Elle en a également rénové 32. Des techniciens de laboratoire sont formés régulièrement par l'Institut catholique de Lyon. Au total, la Fondation intervient dans 20 pays, comme le Mali, le Bangladesh, le Liban, l'Irak et Madagascar.
Madagascar qui est touché depuis le mois d'août par une épidémie de peste.
Oui, la peste touche en moyenne 500 personnes par an sous sa forme bubonique, transmise par les rats en zone rurale habituellement. Mais cette fois-ci, elle est transmise d'homme à homme par voie aérienne. Elle touche aussi deux agglomérations de l'île. Alors j'ai rencontré le professeur Luc Samisson avant que l'épidémie de peste n'ait l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Il est directeur du centre d'infectiologie Charles Mérieux à Tananarive, un centre créé en 2010, destiné à la formation, à la recherche, pas à des examens de routine. Et puis il est également doyen de la faculté de médecine de la capitale malgache. Pour lui, la menace infectieuse prend différentes formes à Madagascar.
Les maladies infectieuses à Madagascar sont similaires, si je puis dire, à toutes les maladies infectieuses en Afrique subsaharienne. Nous avons surtout beaucoup de problèmes concernant le paludisme, qui est une pathologie prévalente à Madagascar. Il y a également la tuberculose.
En 2014, il y avait 56 000 cas de tuberculose à Madagascar, selon l'OMS?
Oui, Madagascar reste encore un des pays qui souffre le plus de la tuberculose. La tuberculose se transmet en fait par les postillons, quand les personnes toussent. Quand il y a la pauvreté, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vivent sous le même toit, des fois 8 à 10 personnes. Et c'est ça qui facilite la transmission facile de la tuberculose. Un traitement complet contre la tuberculose devrait être de 6 mois au minimum, de telle sorte que la personne donc est vraiment indemne de toute bactérie dans son corps. Mais actuellement, comme toute maladie infectieuse, il y a également des souches de Mycobacterium tuberculosis qui donc sont à l'origine de la tuberculose, qui sont résistantes, qui deviennent résistantes aux antituberculeux les plus utilisés.
Ce traitement est gratuit ?
Les antituberculeux sont complètement gratuits, de même que les traitements contre le virus du VIH. Mais il faut savoir que la prévalence du sida et du VIH à Madagascar est moindre par rapport aux autres pays, puisque elle n'est que de 0,3% officiellement actuellement. Par contre, pour le paludisme, c'est subventionné, donc il y a quand même une petite part que la population paie. C'est 1 euro le traitement complet, à peu près.
Votre centre est aussi amené à traiter des cas de lèpre?
Oui, le centre d'infectiologie Charles Mérieux est considéré depuis 2016 comme le laboratoire national de référence suite aux études qui ont été menées dans notre centre avec l'équipe de dermatologie pour le bon traitement de ces cas de lèpre à Madagascar.
Où en est-on du point de vue de la lèpre à Madagascar ?
La prévalence a diminué beaucoup ces 10 dernières années, mais ce n'est pas encore éradiqué. Donc Madagascar fait partie encore des pays qui ont la lèpre dans leur pays, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays subsahariens. La lèpre se propage en fait avec la promiscuité, puisque c'est une maladie de la peau. Et cette promiscuité donc sous-entend qu'il y ait des contacts prolongés, soit vestimentaires, soit directs, avec les personnes atteintes de la maladie. Et il y a des déformations ensuite qui s'en suivent au niveau des membres, au niveau des extrémités.
Quelle est la réalité de l'accès aux soins à Madagascar et quelles sont les difficultés aujourd'hui pour cet accès aux soins ?
Il y a les centres de santé de base qui sont éparpillés dans toute l'île, mais c'est surtout la distance entre les villages et le centre qui pose problème. Et ça peut aller de 5 à 20 kilomètres ou même des fois une demi-journée de marche quand il n'y a pas de piste praticable. Donc il n'y a pas d'assurance maladie, il y en a, mais c'est seulement réservé pour une petite fraction de la population qui peut se la payer, et c'est eux-mêmes qui payent leur assurance santé. L'accès aux soins va en parallèle avec l'amélioration de l'économie du pays, puisque si l'économie est en bonne santé, la population pourrait avoir un niveau social plus élevé, et ils pourront aussi avoir accès à tous les traitements plus tard contre les maladies infectieuses.
Dans ce contexte-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire encore.
Oui, et en fait, c'est la raison d'être des différents centres qui luttent contre les maladies infectieuses. Donc, on a pu, depuis la création en 2010 jusqu'à maintenant, former 250 personnels de santé à peu près, biostatistiques, épidémiologie, pour qu'ils puissent mener des recherches dans leurs centres de santé. Il y a déjà une quinzaine de laboratoires qui ont été financés, réhabilités, et qui peuvent transmettre des données à temps réel pour la surveillance des maladies infectieuses dans les lieux reculés de Madagascar.
Le professeur Luc Samisson, vous parlait de la lèpre à Madagascar, Charlie Dupiot.
Oui, l'année dernière, en 2016, il y a eu 1950 nouveaux cas recensés. C'est plus que l'année précédente. Madagascar fait partie des 5 pays au monde les plus touchés par la lèpre. Cette maladie concerne encore 3 millions de personnes sur la planète.
Et il mentionnait aussi la résistance aux antituberculeux.
La résistance aux antibiotiques est un problème majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses. Les bactéries évoluent en réponse à l'utilisation de ces médicaments et elles deviennent résistantes, en fait, aux médicaments. C'est selon l'OMS une des plus graves menaces qui pèsent aujourd'hui sur la santé mondiale.
Priorité santé, vous restez avec nous. On se retrouve après le flash d'information pour continuer de parler des maladies infectieuses. Paludisme au Mali, choléra au Bangladesh, Ebola aussi en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Les maladies infectieuses sont multiples. La solution passe-t-elle en priorité par le développement de vaccins ? On en reparle dans 3 minutes.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Priorité Santé. On continue de parler des maladies infectieuses, tuberculose, sida, paludisme, choléra et autres maladies qui tuent chaque année près de 17 millions de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement. Elles sont transmises par des bactéries, des virus et des parasites. Alors comment lutter contre ces pathologies dans des contextes où les systèmes de santé sont souvent défaillants, fragiles et l'accès aux soins limité? Pourquoi miser sur la construction de laboratoires directement dans les pays en développement et à quels défis ces pays font-ils face? C'est un reportage de Charlie Dupiot à l'occasion des 50 ans de la Fondation Mérieux, organisée à Annecy dans le sud-est de la France, avec des médecins venus du monde entier et aussi des destins hors du commun. Charlie Dupiot, vous avez rencontré un médecin malien que l'on a l'habitude d'entendre dans notre émission.
Oui, mais cette fois c'est pour parler de lui et de son parcours. Le professeur Ogobara Dumbo est aujourd'hui directeur du Centre de Recherche et de Formation sur le paludisme à Bamako, au Mali.
Je viens du pays d'Ogon, d'un petit village qui s'appelle Manteuru, à peu près à 1000 km de Bamako. Et vers l'âge de 9 ans, j'ai rencontré le médecin du district de Koro qui est venu nous rendre visite. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, écoutez, je vais être comme vous. Il dit, mais comment? J'ai dit, mon grand-père est traduit praticien. Moi, je vais aller à l'école des Blancs pour découvrir la médecine des Blancs et venir donc soigner la population. C'est comme ça que très tôt, j'étais un mordu de la médecine. Donc, je suis allé à l'école des Blancs, comme mes parents le disaient. Je suis allé donc à l'âge de 15 ans à Bamako, dans la capitale, et pour faire le lycée. Et donc, j'ai fait biologie. Et après mon bac, j'ai eu la chance d'avoir été orienté à l'école de médecine qui venait d'être créée par la France juste après l'indépendance. Donc nous avons été parmi les premières promotions de cette faculté. Donc pour nous c'était un défi, être formé dans son pays, et nous étions des médecins à compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? On pouvait faire un diagnostic clinique, on pouvait travailler dans le laboratoire et on avait des compétences en chirurgie, parce que nous devions aller hors de Bamako et il fallait savoir opérer les maladies qui étaient mortelles pour la population, telles que les femmes qui avaient des difficultés d'accoucher, les appendicites. Donc on a été formés avec ces compétences et nous sommes allés en brousse. Et j'étais un médecin de brousse, j'ai commencé par l'est de Bamako et j'ai terminé ma course à Selengué. Et vraiment j'ai été frappé à Selengué, là où je travaillais, les enfants qui mouraient de paludisme. Donc je me suis dit, seul on ne peut pas adresser ces questions d'endémie, donc il faut revenir à l'université.
Et vous avez eu envie en fait de prendre du recul et d'essayer de résoudre le problème de manière plus générale?
Exactement, c'est-à-dire la prise en charge individuelle ne pouvait pas me permettre de résoudre la question. J'ai dit, je forme une équipe, je développe des recherches, je publie des évidences, des nouveaux médicaments, des nouveaux produits. Et j'ai rencontré le professeur Rank, qui est un Marseillais, qui m'a envoyé en formation à Marseille et à Montpellier. J'ai fini en 90 et puis j'ai immédiatement pris mes bagages, je suis revenu au Mali. Et c'est comme ça qu'on a créé le Malaria Research and Training Center. Et nous étions deux chercheurs et au moment où je vous parle, nous avons formé 5 générations de Maliens que nous avons envoyés en formation en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans les meilleures universités. Et nos résultats impactent sur la santé. Et c'est ça qui nous motive. Les premiers résultats, c'est la cartographie de l'épidémiologie du paludisme au Mali. Nous avons parcouru le Mali du sud au nord. Ça a permis d'élaborer le programme national de lutte contre le paludisme. Et récemment, c'est-à-dire nous avons démontré le paludisme est saisonnier, donc ce n'est pas la peine de travailler pendant 12 mois. Et les mois les plus chauds, on donne une dose de médicaments chaque mois aux enfants de moins de 5 ans, 80% de réduction. C'est extraordinaire. Voilà, c'est une évidence qu'on a amenée et l'OMS l'a adoptée pour les pays sahéliens. C'est-à-dire, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui meurent de paludisme en Afrique. Au Mali, nous avons 3 500 000 exposés
au paludisme
chaque année. Ce sont les femmes enceintes qui meurent de paludisme. Au Mali, nous avons 900 000 grossesses par an. C'est cette population cible-là sur laquelle je vais avoir un impact.
Et alors, comment protéger les femmes et les enfants?
J'allais dire très simple. La première arme, ce sont les moustiquaires imprégnés d'insecticides. C'est l'accès universel. On donne à toutes les familles. Il suffit que les femmes enceintes, les enfants dorment sous moustiquaires ou réduisent le contact homme-vecteur. La deuxième arme, c'est la prise en charge avec les tests de diagnostic rapide. Un enfant vient, même dans une famille, on peut faire le test. Si c'est le palu, on lui donne les CTA. Et si c'est les CTA, en 3 heures, il est guéri. C'est fantastique.
Donc c'est un médicament?
C'est un médicament combiné à l'artémisinine et c'est gratuit. Pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, grâce au Fonds mondial, c'est gratuit. Et troisième stratégie chez les femmes enceintes, c'est que chaque fois qu'elles viennent en visite prénatale, à partir du deuxième trimestre, on leur donne un médicament d'une manière mensuelle. Ça nettoie les placentas, ça protège la maman, ça protège les enfants. C'est aussi la prévention médicamenteuse. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont dans cette dynamique-là parce que ces stratégies mises à échelle vous faites baisser en quelques années la transmission, la morbidité, voire la mortalité. Et nous avons aussi contribué à la définition de cette stratégie.
Et la dernière arme dans la lutte contre le paludisme, on en parle souvent, c'est bien ce vaccin contre la maladie. Et le professeur Obogara Dumbo y travaille.
Alors, ça avance beaucoup, mais au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire que j'ai un vaccin que je vais utiliser dans 1 ou 2 ans. Mais nous avons des produits qui sont en course. Il y a le vaccin de GSK, qu'on appelle le RTSS, qui a été testé en phase 3 sur 16 000 enfants en Afrique, qui a donné un niveau d'efficacité moyen, autour de 50%, disons. Et l'OMS a recommandé des études complémentaires, et ce qui est en train d'être fait en Afrique. Il y a un autre qui vient d'arriver, et pour lequel nous avons été aussi les premiers à tester en Afrique. C'est le vaccin qu'on appelle sporozoïde entier. Ce vaccin a montré une efficacité de 90 à 100% aux États-Unis. Donc nous sommes en train maintenant de tester en Afrique, en commençant par la population adulte, et progressivement nous irons dans la population des enfants. Donc ça aussi, ça donne beaucoup d'espoir.
Et vous avez-vous beaucoup travaillé avec les tradis praticiens?
Absolument, je suis d'origine donc d'une famille tradie praticienne et dans les sites où je travaille sur les vaccins, les médicaments, mes premiers contacts c'est les tradis praticiens. Parce qu'avant de faire des essais cliniques, il faut ce que nous appelons la permission communautaire. C'est-à-dire, il faut réunir la population dont les leaders sont les chefs de village, ses conseillers, mais aussi il faut avoir le tradis praticien, il faut aller le voir. On lui explique notre intention. Et il faudrait que lui, il adhère à notre projet. On le considère comme une partie de l'équipe soignante. Et vous pouvez commencer à accéder à la population pour identifier des volontaires et faire des essais cliniques dans les règles de l'art. Sans le tradit praticien, vous ne pouvez pas faire ce travail. Et le vaccin sera vraiment la dernière arme que nous allons ajouter pour arriver à l'élimination, probablement vers les années 2030.
Du paludisme.
L'élimination est une possibilité dans nos mains.
On l'entend, il y a plusieurs projets de vaccins contre le paludisme.
Et puis également un autre vaccin qui s'appelle Transmission Block Vaccine, qui bloque la transmission. Alors des études communautaires sont en train d'être menées, le vaccin est en phase 2. On attend un niveau d'efficacité entre 50 et 80%. Et ce vaccin va s'ajouter aux stratégies existantes dont parle le professeur Obogara Dumbo. Et vous l'avez compris, il faut une permission communautaire avant chaque essai clinique.
Et Charlie, hein, difficile de parler de la menace infectieuse sans parler d'Ebola.
Sur ce sujet, je vous propose d'écouter le docteur Abdoul Habib Beavoghi. Il est directeur du Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale en Guinée, à 75 km de la capitale, Conakry. Dans son centre, il propose une formation initiale et continue des personnels de santé. Des recherches également sont menées dans le domaine biomédical pour réorienter les politiques du ministère de la Santé. Également des formations de laborantins, notamment sur le paludisme et le diagnostic du paludisme. Et puis des soins sont aussi prodigués. Bref, c'est un centre de santé améliorée où on traite des cas de paludisme, de maladies respiratoires aiguës et de maladies diarrhéiques.
La maladie est intervenue en Guinée vers les 3 derniers mois de l'année 2013. Mais la confirmation n'est venue qu'à partir du mois de mars 2014 où l'OMS a déclaré réellement l'existence de la maladie à virus Ebola. Mais auparavant, il y a eu beaucoup de décès communautaires. C'est quand le personnel de santé était en contact avec ces cas-là qui a commencé à développer la maladie que l'alerte a été donnée. Et pour la confirmation, on a envoyé des échantillons au laboratoire de Lyon qui a confirmé l'existence de la maladie à virus Ebola. Donc, ce qui signifie que nous avions un système de santé très faible qui n'a pas pu mettre en évidence à temps l'existence de cette pathologie. Tout comme dans la plupart des pays africains, on n'a pas été suffisamment capable de diagnostiquer à temps les cas. Et si les cas étaient confirmés, on n'avait pas l'arsenal thérapeutique pour prendre en charge les cas. Que ce soit en ville ou en milieu rural, il est difficile de changer les habitudes des gens et les croyances. Et pendant la maladie à virus Ebola, il y avait beaucoup de rumeurs, telles que quand vous allez dans les centres de traitement Ebola, ils vont vous tuer, ils vont vous empoisonner. Donc tout ce qu'on va vous donner, il ne faut pas accepter. Donc ça contribuait à la propagation de la maladie. Les gens de la Croix-Rouge, quand il y a un cas d'Ebola dans une famille, ils venaient pour essayer de désinfecter les locaux et tout ce qui va avec. Mais après le passage des gens de la Croix-Rouge, si quelqu'un de la famille tombe malade, ils vont accuser à tort les gens de la Croix-Rouge de venir asperger les maisons avec le virus et après leur départ qu'ils ont fait la maladie.
Alors que cette personne aura déjà été certainement contaminée auparavant.
Voilà. Donc cela n'a pas été facile. Donc la population avait peur des structures de santé au risque de contracter la maladie.
Même s'ils se sentaient malades d'autres maladies. D'autres
pathologies. Donc c'est ce qui s'est passé. Des études ont montré qu'il y a eu beaucoup plus de cas de paludisme et de morts pendant Ebola parce que, comme il y avait rupture de confiance entre les prestataires de soins et les utilisateurs, les cas de paludisme étaient gérés à la maison.
Les gens n'osaient plus aller à l'hôpital ou dans les structures de santé.
Les structures de santé et le personnel soignant avait peur des patients qui venaient des communautés au risque de se faire contaminer. Il y a eu au moins 211 agents de santé contaminés avec 115 décès. Il y avait une urgence sanitaire nationale. Mais les symptômes ressemblent à la plupart des maladies infectieuses. C'est la fièvre, c'est les maux de tête, c'est la diarrhée, les vomissements. Mais la particularité, comme on dit, c'est les fièvres hémorragiques. Vous allez avoir des maux de tête dans plusieurs autres pathologies, dans le cadre du paludisme, dans le cadre de la méningite, dans le cadre des fièvres typhoïdes, etc. Et ensuite, il y a eu la mise en place des structures de soins. Mais au jour d'aujourd'hui, il existe plusieurs laboratoires et bien équipés qui sont capables maintenant de faire le diagnostic de la maladie à virus Ebola sur place. Ce qui n'était pas possible avant, y compris dans notre centre de recherche.
Combien de cas il y a eu au total en Guinée?
Au total, il y a eu plus de 3000 cas et plus de 2000 et quelques décès. C'est en décembre 2015 qu'on a déclaré la Guinée libre de la maladie à virus Ebola, mais quelques temps après, il y a eu résurgence en avril 2016. Mais cette résurgence n'est pas allée loin, ça a été vite maîtrisé puisque nous avions déjà une capacité de riposte et de gestion de la maladie.
Et qu'en est-il des vaccins par rapport à Ebola?
Donc actuellement, parlant de vaccins, le centre également joue le rôle de principal investigateur du côté de la Guinée. Mais ce projet va au-delà de la Guinée. Ça couvre les trois pays les plus affectés par Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, mais récemment, le Mali a intégré le consortium. Le système de santé de la Guinée a été renforcé. Bon, cela a permis de voir nos faiblesses et de pouvoir corriger ces lacunes.
Et pour vous, quelle doit être la place des scientifiques du continent africain sur ces questions-là, de surveillance épidémiologique, de vaccins, de traitements thérapeutiques?
Mais la place des scientifiques africains, c'est une place primordiale. Nous devons être acteurs de la gestion de nos problèmes de santé. Si je prends un exemple, le paludisme tue beaucoup plus dans nos pays. Mais il n'y a pas assez de paludologues dans nos pays africains. Et c'est ce que nous disons dans nos proverbes, que quand quelqu'un te lave le dos, il faut te laver le ventre. Donc, nous, notre participation, c'est de mener des recherches, à avoir des données factuelles pour mettre à la disposition de nos politiques. C'est pour cela que nous qui avons eu la chance de venir faire des formations en Occident, nous avons accepté de retourner dans nos pays, mettre en place quelque chose pour aider nos gouvernements, nos populations à améliorer leur état de santé.
Aujourd'hui, une surveillance active est menée autour des survivants d'Ebola, de crainte en fait de contamination par voie sexuelle. Le tout est associé à une sensibilisation de la communauté pour prévenir une nouvelle épidémie.
Oui, il faut rappeler qu'en Guinée, le taux de létalité de cette maladie était de 60%, ce qui veut dire que 60% des gens qui ont contracté cette pathologie en sont morts.
Et pour aller plus vite dans le diagnostic, un réseau a été créé par la Fondation Mérieux.
Oui, il s'appelle RESAOLAB, le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biologique. Il a été créé en 2009 et il rassemble 7 pays: Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Niger, Bénin, Togo, Mali. Tous ces pays ont mis en place des laboratoires centraux et puis aussi rénover des laboratoires périphériques. Alors c'est encore un défi important pour les maladies infectieuses qui nécessitent parfois l'examen d'échantillons pour le diagnostic. Le professeur Jean Sakandé est longtemps resté à la tête de ce réseau.
Le parent pauvre, généralement, c'est le laboratoire dans notre contexte. Pendant longtemps, on a fait du traitement basé sur les signes. Jusqu'à ce qu'il y ait le VIH, qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire du diagnostic de laboratoire. Et c'est pour ça que les laboratoires étaient en retard dans le système de santé. Particulièrement dans notre pays.
Au Burkina Faso.
Une expérience du ministre de la Santé a mené à la création d'une direction de laboratoire en 2002. Il y avait eu une épidémie de méningite. L'État a mis les moyens pour acheter à coups de milliards les vaccins. Malheureusement, il y a plusieurs sérotypes qui sont responsables de la méningite à méningocoque. Alors, on a acheté le germe qui habituellement circulait dans notre zone et on a vacciné. Il s'agit d'un nouveau sérogroupe qui est venu après un pèlerinage. Que les pèlerins ont ramené ça. Et donc, du coup, le sérogroupe qui est là, on n'avait pas vacciné contre. Malheureusement, l'épidémie avait continué. Il fallait remettre encore des ressources pour vacciner contre ce sérogroupe. Voilà le rôle éclairant de laboratoire. J'aime beaucoup l'expression de M. Mérieux qui dit que sans la biologie, la médecine est aveugle. Et c'est dans ce contexte que RESAOLAB est venu nous aider à renforcer la politique nationale.
Et ça a permis une prise de conscience aussi du gouvernement burkinabé par rapport à l'importance des laboratoires.
Oui, absolument. Nous étions les premiers dans l'espace à créer une direction des laboratoires en 2002.
Dans toute la zone de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, dans toute la zone. Avec le VIH et après avec Ebola, les problèmes se complexifiant. On est obligé d'avoir des laboratoires capables de faire le diagnostic des pathologies, des germes les plus dangereux. Malheureusement, on ne peut pas, le laboratoire, ça coûte cher. On ne peut pas mettre les laboratoires partout. Mais on peut, au moins par pays, mettre en place un labo de haut niveau et mettre un circuit de transport sécurisé de la périphérie vers ce laboratoire. Le premier cas de Ebola en Guinée, on a dû envoyer l'échantillon au laboratoire P4 de Lyon pour faire le diagnostic. Vous voyez les complexités d'envoyer des échantillons à l'international. En l'occurrence, nous, on a eu le résultat après une semaine de Lyon. C'est pour dire l'intérêt du laboratoire. Actuellement, le laboratoire, c'est pas un luxe. Chaque pays devrait pouvoir avoir un labo de niveau de sécurité élevé pour rapidement, dans les 24 heures, poser le diagnostic. En fait, de façon échelonnée, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le niveau laboratoire basique qui fait le diagnostic basique en périphérie, parce qu'en réalité, l'épidémie commence en périphérie. Donc, c'est là-bas, dans le centre de santé, qu'il faut mettre les moyens pour rapidement poser le diagnostic. Si on a des tests rapides d'Ebola, ça existe, on peut les mettre en périphérie. Puis, au niveau intermédiaire, mettre un labo d'un autre niveau Puis, au sommet de la pyramide, maintenant, mettre le labo du niveau international. Plus vite on posera le diagnostic, plus vite on va maîtriser l'épidémie.
L'idée serait que ce réseau de laboratoires dans 7 pays africains s'étende en fait à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO.
Oui, avec le projet qu'un laboratoire de niveau P3, alors c'est un niveau très élevé pour les laboratoires, soit construit dans la sous-région. Mais l'entretien de ce type de laboratoire poserait un vrai défi à cause des coûts, donc ce n'est peut-être pas pour tout de suite.
Alors, autre sujet que l'on aborde à présent, Charlie, il s'agit des maladies diarrhéiques et le choléra.
Les maladies diarrhéiques peuvent causer de sévères déshydratations qui entraînent la mort s'il n'y a pas de traitement. Au Bangladesh, le docteur Firdausi Kadri a fondé 3 hôpitaux, dont un à Dhaka, dans la capitale, qui est consacré aussi aux recherches sur les maladies diarrhéiques. Cet hôpital, fondé en 78, a le statut d'une organisation indépendante internationale. Il est soutenu par des donateurs et aussi par le gouvernement du Bangladesh. 120 000 patients viennent chaque année.
There are every day at least.
Nous accueillons tous les jours au moins 300 patients dans notre hôpital et quand il y a une épidémie de choléra ou d'autres maladies liées aux diarrhées, 500 voire 1000 patients peuvent venir chaque jour. Nous avons 300 lits, on les appelle les lits à choléra car il y a un trou dans le lit avec un seau et la personne peut s'allonger. Nous pouvons alors observer la quantité de sel émise et en fonction de celle-ci, adapter le traitement et la réhydratation. En cas de grande épidémie, s'il y a une inondation par exemple, il nous arrive même d'accueillir des gens à l'extérieur, dans le parking, avec des tentes que l'on peut installer sur le sol.
The ground floor of the building.
Vous avez-vous établi un protocole de traitement contre le choléra?
Notre protocole, c'est que nous ne perdons pas de temps à enregistrer les patients à leur arrivée dans notre hôpital. Selon leur état, on les installe immédiatement dans un lit et on commence alors la réhydratation, on les perfuse. La dose dépend du niveau de déshydratation du patient. Ce n'est que plus tard qu'on demande aux patients leur identité et toutes leurs informations. Mais quand ils arrivent, surtout, on n'attend pas. Parce que c'est une maladie tellement aiguë, tellement sévère qu'il faut les réhydrater immédiatement. Si on perd du temps, ils peuvent mourir.
Il y a plus d'épidémies de choléra avec des épisodes climatiques comme les inondations.
Exactement. À chaque inondation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des cas de choléra dès que l'eau d'écoulement commence à redescendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'eau potable, bonne à boire, et alors la bactérie se répand. C'est une maladie transmise par l'eau.
On est contaminé en fait par l'eau, qui est elle-même contaminée.
L'eau est contaminée par les selles des patients. Quand une personne a le choléra, ses selles se retrouvent dans l'eau. Si une personne a le choléra, très vite, les autres membres de sa famille peuvent être infectés. C'est tellement contagieux. S'ils sont à Dhaka ou en banlieue, ils se précipitent dans notre hôpital.
Et le traitement est gratuit pour les enfants et les adultes qui sont touchés?
Oui, dans notre hôpital à Dhaka, c'est gratuit. Et dans les centres de santé du gouvernement, le coût est minimal.
À quelles difficultés vous faites face dans la prise en charge de ces patients?
Dans notre centre, nous pouvons faire front car nous avons des solutions de réhydratation orale, des fluides en intraveineuse, des médecins, des antibiotiques. Mais pensez à ce qui se passe ailleurs dans toutes les zones rurales du Bangladesh. Ils n'ont pas assez de centres de santé. Il y a bien des centres de santé du gouvernement, mais c'est une maladie dont vous pouvez mourir en 2 voire 4 heures.
Mais la question est d'avoir des centres de santé accessibles.
C'est le défi, des centres de santé plus proches de l'endroit où les personnes vivent. Car dans les villages, ce n'est pas comme à Dakar. On ne peut pas prendre un bus ou un taxi pour se déplacer jusqu'à un centre de santé. Donc, pour une personne qui vient d'un village très reculé, cela peut prendre beaucoup de temps de rejoindre un centre. Au Bangladesh, nous avons au moins 4500 personnes qui meurent chaque année du choléra, même à notre époque. Malheureusement, ces chiffres ne baissent pas.
Et comment lutter alors? Comment, selon vous, faire baisser ces chiffres?
J'ai travaillé toute ma vie dans le choléra pour essayer de comprendre la bactérie, comprendre comment elle provoque des maladies et comment elle peut être évitée. Le meilleur moyen pour prévenir toutes les maladies infectieuses, en particulier les maladies diarrhéiques, c'est de l'eau propre, un réseau d'assainissement de qualité, de l'éducation sur les questions d'hygiène. Et c'est une tâche énorme d'accéder à de l'eau propre dans un pays de 160 millions d'habitants. L'eau potable, c'est la denrée la plus chère. Nos tuyaux qui acheminent l'eau sont en mauvais état. Il y a des trous, certains creusent à travers ces conduits et contaminent l'eau. Et puis, il n'y a pas assez d'eau à disposition. Alors, comme cet assainissement, c'est un long chantier, il faudrait plutôt, pour les 5 prochaines années, à court terme, nous reposer sur le vaccin dont nous disposons, le vaccin oral contre le choléra. Dans un pays comme le nôtre, c'est nécessaire et il faut l'utiliser partout où le choléra est présent, en Haïti, au Congo, au Yémen. Ce vaccin peut être donné facilement en même temps que d'autres vaccins. Ce n'est pas une injection. Vous donnez à chacun 2 doses en 2 semaines et cela protège pendant 3 ans avant de devoir administrer une nouvelle dose. Pour le moment, utilisons les armes que nous avons à disposition. Mais qui sait, peut-être que dans 5 ans, quand tout notre système sera amélioré, nous n'aurons plus besoin du vaccin. Il n'y aura plus de choléra. Je suis quelqu'un d'optimiste.
I'm a very optimistic person.
Et le vaccin contre le choléra offre 60% de protection.
Mais comme le dit le docteur Firdausi Kadri, si vous vaccinez la moitié de la population dans un endroit, par effet direct et indirect, il y a plus de 90% d'efficacité au total. Et puis, il faut ajouter aussi que la couverture vaccinale pour d'autres vaccins est déjà de 70 à 80% en Bangladesh.
Les vaccins comme solution aux maladies infectieuses, c'est en tout cas l'une des pistes avancées par tous ces médecins, des solutions, des chemins dont nous serons bien sûr amenés à reparler dans notre émission Priorité Santé. Merci beaucoup, Charlie Dupiot, pour ce reportage réalisé par Sophie Janin. Le numéro de notre émission, bien sûr, Priorité Santé, c'est le 01 80 82 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.